donc vous êtes le directeur du CFJ à Paris. Est-ce que vous préparez vos élèves à déjouer un peu les artifices de la communication en politique ?
J'ai instauré il y a 3 ans un séminaire appelé de résistance à la communication. Ça a même choqué certains journalistes. Mais à mon avis, résister à la communication, c'est une des fonctions sociales importantes du journalisme. Dans un monde où les communicants sont de plus en plus nombreux, avec des moyens de plus en plus grands, une démocratie a besoin de gens qui filtrent, qui distinguent le vrai du faux, l'intoxication de la réalité. J'ai appelé à l'époque Cédric Mathiot, qui est un ancien élève du CFJ, qui a créé des intox, cette rubrique dans Libération. Et il a commencé à dispenser ce cours. Et ça me paraît absolument essentiel. Et trop souvent, les journalistes se comportent en relais de communication. Et ça, c'est terrible parce que c'est la négation de ce qu'on fait.
Sur un sujet un peu différent, vous parliez tout à l'heure des sources. Et donc, comme quoi vous aviez eu souvent les informations les plus intéressantes en dehors du cercle fermé autour des politiques. Pour autant, vous parliez du fait que c'est important d'être quand même dans leur petit papier pour pouvoir continuer à les suivre. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'avoir besoin d'être un peu en connivence avec les politiques ? Pour autant, vos sources et vos informations viennent de l'extérieur.
Non, j'ai jamais dit qu'il fallait être en connivence. Je pense que le journalisme, c'est être proche et être loin. Et qu'il faut idéalement arriver à être les deux en même temps, et sinon bien placer le curseur entre les deux. Et qu'il faut être proche des gens pour obtenir des informations, et loin pour rester indépendant d'eux. Alors, j'évoquais le fait que moi, j'ai fréquenté des politiques. Ils m'ont donné des informations parce que parce qu'ils avaient confiance ou parce que j'appartenais à un média aussi, souvent, c'est ça. Et même parfois des scoops, mais qu'en revanche, les informations sur les politiques, c'est pas la personne elle-même qui généralement va vous les donner. C'est rare qu'elle donne une information très pertinente sur elle-même. Donc là, il faut aller un peu plus loin. C'est comme si vous vouliez enquêter sur le CFJ. Venez me poser des questions, je vous raconterai des choses. Mais peut-être que les informations, si vous voulez sortir un grand scoop sur le CFJ, c'est peut-être pas de moi qu'il faut venir voir, c'est peut-être quelqu'un d'autre et trouver d'autres sources.
Un peu une contradiction, parce qu'une fois que le scoop que vous avez eu, il a été dévoilé dans la presse ou dans les médias. Normalement, si c'est vraiment un scoop à la fin d'une investigation, s'il dénonce vraiment quelque chose, vous ne devriez plus pouvoir aborder les politiques et aborder les gens qui sont concernés par ce scoop.
Non, alors peut-être que je n'ai pas été clair. Une source donne des informations. Ça peut être un jour un ministre de l'Intérieur qui vous donne un document ultra secret et vous le publiez. C'est important d'être en rapport avec la source. C'est important de ne pas publier comme ça gentiment tous les documents qui sont donnés par le ministre de l'Intérieur parce qu'on devient son valet et on finit par faire sa communication. C'est important de vérifier évidemment ce qu'il vous rapporte. Mais si vous voulez enquêter sur le ministre de l'Intérieur, il faut être loin de lui. Si vous voulez vous servir de lui comme source, il faut être proche. Si vous voulez enquêter sur lui, il faut être loin. Allez voir d'autres sources qui vont vous raconter des éléments un peu plus secrets que sa communication sur lui. Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout... Alors, peut-être je ne suis pas clair, mais pour moi, il n'y a absolument pas de contradiction là-dedans.
Si, si, c'est clair. Mais bon, il semblerait quand même qu'une fois que vous avez une fois un scoop vraiment et une affaire révélée comme ça... C'est plus possible de retourner une seconde fois auprès de ce ministre-là.
Si lui, il s'est comporté comme source, c'est-à-dire s'il vous a donné une info, que vous l'avez utilisée, que vous avez vérifiée, il n'y a pas de raison qu'il vous en veuille. Si, en revanche, vous avez écrit sur lui des choses qui lui déplaisent, bah, évidemment, il ne voudra pas. Moi, ça m'est arrivé avec Sarkozy. Il m'a donné des informations par moment, y compris des documents, mais ça ne m'a pas empêché, le jour où j'ai eu des choses qui le concernaient et qui n'allaient pas du tout dans son sens, de les publier. Je ne l'ai plus jamais vu, je n'ai plus jamais été invité à déjeuner, je n'ai plus jamais été invité dans un avion ou un hélicoptère avec lui. Ce n'est pas grave, je suis passé à autre chose. Mais y a pas, j'ai joué avec le jeu de la distance et de la proximité. Je ne me suis pas laissé enfermer par la proximité.
Donc le thème du débat, c'était la presse, un contre-pouvoir sur le fil. Alors moi, je me suis demandé, est-ce que finalement ce contre-pouvoir est sur le fil à cause d'une indépendance du journaliste qui tend à disparaître ? Comme par exemple, on voit avec ça avec TF1 et Bouygues, ou Figaro et Dassault. Bon, on ne peut pas résumer évidemment ces médias que à ça, mais c'est quand même un facteur qui compte.
Non, la question de l'indépendance des journalistes, elle est plus large que ça. Elle est liée à la détention capitalistique, incontestablement. Elle est liée au rapport aux annonceurs, dans le cadre de la publicité qui finance une bonne partie des médias. Elle est liée, à mon sens, surtout à un comportement culturel qui est, je le racontais lors du débat, qu'en France, on fait carrière en accompagnant les politiques, en accompagnant le pouvoir, même plus largement, là où aux États-Unis, on fait carrière en le critiquant. Et il y a un comportement culturel, mais peut-être parce qu'il y a une tradition de journalisme de cours consistant à faire de très beaux portraits du monarque qui imprègne le journalisme politique français et qui l'empêche d'être assez dans la distance. Un bon journaliste politique, c'est quelqu'un qui est toute la journée avec des politiques. Moi, je pense qu'un journaliste, un bon journaliste politique devrait être quelqu'un... Non, je disais ça ironiquement. Hein. Enfin, je disais ça avec distance. Un bon journaliste politique, pour moi, il devrait parfois être avec des politiques, parfois être avec des politiques de l'autre bord, pas être spécialisé, aller suivre les mouvements sociaux, aller voir la vie dans les entreprises, aller visiter un peu la Chine, être généraliste et parfois traiter de la vie politique pour ne pas être enfermé dans un microcosme qui finit par déformer sa perception de la réalité.
Peut-être que les journalistes français, s'ils accompagnent en fait les politiques, c'est parce que ça leur donne une position pour avoir des informations exclusives, du scoop. Et quand on est un jeune journaliste, ça peut peut-être donner une position favorable dans l'organe de presse.
Non, c'est évident. Alors, c'est pas quand on est jeune journaliste généralement qu'on accompagne un ministre ou un premier ministre. Que ça donne du pouvoir dans un organe de presse, c'est sûr. Le côté aller voir son rédacteur en chef en disant « Moi, le premier ministre m'adore et je le vois et je peux l'avoir au téléphone », évidemment, ça représente du pouvoir. Mais, et puis surtout, ça représente aussi du confort pour le journaliste. C'est-à-dire, c'est une vie très agréable hein, d'accompagner des politiques, des gens de pouvoir, de viser avec eux. Mais après, je pense qu'il faut avoir un surmoi et se dire pourquoi je fais ce métier ? Quel est le sens ? Est-ce que c'est pour mon confort personnel ? Parce que c'est une vie géniale et que je prends l'avion 3 heures puis que je suis dans le convoi et que j'entre dans le bureau des présidents à l'étranger ? Ou est-ce que je le fais parce que je pense que ça correspond à une fonction sociale utile pour la démocratie, que je dois être un contre-pouvoir pour être pour servir mes lecteurs, mes auditeurs, mes téléspectateurs. Moi, je crois que c'est ça qui doit l'emporter et que cette satisfaction-là, elle est plus grande au fond. Tous ne font pas ce choix-là.
C'est le Alain Duhamel, quoi.
Si vous voulez dire que je suis plus proche d'Edoui Plenel que d'Alain Duhamel, ça me paraît assez vrai.
Pour en revenir sur le thème de la communication, est-ce que les journalistes font attention aux nouvelles technologies d'information et de la communication ? Parce que on peut transmettre des informations en instantané et on a l'impression que des fois, ce n'est pas vraiment vérifié ces informations. On a vu le cas avec Mohamed Merah et BFM qui annonçaient qu'ils s'étaient rendus et ce n'était pas le cas.
Oui, mais là, je ne suis pas sûr que ça ait à voir avec les nouvelles technologies d'information. C'est quelqu'un qui avait des sources, un présentateur de BFM qui avait des sources et qui a été trompé par ses sources. Et qui a
fini. Moi, ce que je veux dire, c'est que peut-être que, comme maintenant avec ces nouvelles technologies, on peut envoyer l'information rapidement pour être le premier à dire l'information, pour être le premier à dire « Voilà, nous, on sait que Mohamed Merah va se rendre. » Et en fait, on ne vérifie pas trop, quoi.
Non, il peut y avoir une pression, mais enfin, la pression, elle est ancienne. Les agences de presse, ça fait des décennies qu'elles rivalisent pour être la première. Après, l'important, c'est de ne pas se planter. Donc, que le système médiatique pousse à être le premier plutôt que le plus pertinent, oui, c'est dommage. En fait, il se trouve qu'il y a un mécanisme français dans les rédactions qui est que, on a envie d'avoir le scoop le premier, mais aussi on a envie de ne pas louper ce que les autres disent, plutôt que de se distinguer. Là où dans d'autres pays, on se dit « je suis un bon journaliste parce que je n'ai pas raconté la même chose que les autres », en France, c'est « je suis un bon journaliste parce que je n'ai pas raté ce que les autres ont dit aussi ». Et ça a une influence très forte sur le système.
Et pour finir, sur la question du contre-pouvoir, justement pour garder ce contre-pouvoir, comment les médias comptent s'y prendre ? Parce qu'on voit que la presse a quand même un pouvoir assez énorme. On l'a vu avec le Canard Enchaîné qui a gagné son procès contre Bouygues. Donc comment lutter pour garder ce contre-pouvoir ?
Moi, je pense qu'il y a une seule manière de lutter, c'est d'avoir une idée en tête de manière obsessionnelle à quoi on sert, nous journalistes. Et si on arrive à montrer aux gens qu'on sert à quelque chose, alors ils auront envie, soit en tant que contribuable, soit en tant qu'acheteur direct de l'information, de payer pour l'information.
Et une dernière question, parce que vous avez parlé beaucoup de vie privée. Le fait que la vie privée s'immisce de plus en plus dans les journaux, est-ce que ça ne tend pas à rendre peut-être l'information un peu dérisoire ? Puisque c'est vrai qu'avec DSK, c'est important, c'est toujours vraiment la politique, aux électeurs, tout ça. Mais par exemple, le fait que François Hollande a maigri ou que Nicolas Sarkozy a été au Phuket, est-ce que c'est vraiment des détails importants ?
Alors, chaque citoyen peut avoir son appréciation. Moi, je me fiche que François Hollande ait maigri. Que Nicolas Sarkozy soit allé au Phuket, en soi, ce n'est pas très important. Mais je crois qu'il ne faut pas... En revanche... Il faut, il y a une trop grande obsession aujourd'hui pour les symboles. Et que les gens sont moins attachés aux symboles. Quand on est loin de la cour, on est moins attaché aux symboles que quand on est dans la cour. Et qu'on s'intéresse plus aux vraies mécaniques du pouvoir. En revanche, traiter de la vie privée, à mon sens, c'est important quand ça a une influence. Enfin, ça, tout le monde s'entend là-dessus, quand ça a une influence sur la vie publique. Et que les fréquentations, ça peut avoir de l'influence. Quand ça influence les décisions des politiques, alors je pense qu'il faut parler de la vie privée. Il ne faut pas avoir le fétichisme de la vie privée. Et moi, savoir si un homme politique fait du vélo, maigrit ou a des maîtresses, en soi, je m'en fiche. Sauf si, parce qu'il fait du vélo, il s'est fait offrir son vélo par... Je caricature, évidemment. Il s'est fait offrir de son vélo par telle firme et qui ensuite, il prend une décision favorable à telle firme. Alors là, je pense que c'est plus sa vie privée de faire du vélo.